14h10 à Paris, 9h10 à Port-au-Prince. Tout de suite, vous retrouvez Anne Verdaguer pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Namori, bienvenue à tous. On va revenir avec cette campagne de haine en République dominicaine, campagne contre les Haïtiens après le meurtre d'un couple d'agriculteurs dominicains à Pedernales, à la frontière avec Haïti. Plusieurs centaines d'Haïtiens ont fui le pays. On en parlera avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. Dans la revue de presse d'Arim Lipold, on parlera de cette migration haïtienne vers la République dominicaine, mais aussi de l'assassinat d'une conseillère municipale à Rio de Janeiro qui provoque une grande émotion dans le pays. Et puis on ira aussi au Mexique pour parler de la guerre contre les narcotrafiquants. Le numéro 1 du cartel des États a été interpellé. Un coup dur pour l'un des cartels les plus violents de l'histoire du Mexique.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Le calme est revenu aujourd'hui dans la commune dominicaine de Pedernales, à la frontière sud avec Haïti. Il faut dire que le gouvernement a envoyé de larges renforts militaires et policiers depuis Santo Domingo. Lundi, des Dominicains avaient défilé dans les rues de la petite ville en lançant un ultimatum. Ils exigeaient le départ sous 24 heures de tous les immigrés haïtiens. Ces menaces xénophobes sont intervenues à la suite d'un fait divers, le meurtre d'un couple d'agriculteurs dominicains imputé à un ressortissant haïtien. Pour les associations haïtiennes de défense de migrants, c'est surtout une nouvelle preuve du racisme latent qui perdure en République dominicaine contre les Haïtiens. À Port-au-Prince, le reportage d'Amélie Baron.
Plusieurs centaines d'Haïtiens ont fui lundi soir la République dominicaine par peur des violences. Ces familles se sont réfugiées dans la première ville haïtienne après la frontière, en Sapitre. La commune est très pauvre, aussi plusieurs associations leur portent-elles assistance. Parmi elles, le service jésuite aux migrants. Jean-Robert Derry en est le directeur. Il sait que, vu cette précarité, ces Haïtiens vont retraverser la frontière malgré le racisme qu'ils subissent.
Leur vie sont en République dominicaine. Alors, quand le calme revient, ils vont retourner encore en République dominicaine. Mais le racisme est toujours là dans leur quotidien. Il va toujours avoir des confrontations entre les Haïtiens et les Dominicains en République dominicaine parce que parfois ils veulent dominicaniser la République dominicaine. Dominicaniser en République dominicaine veut dire non seulement sans les Noirs, mais seulement les Dominicains qui sont nés de parents dominicains. Ils renvoient en Haïti des Dominicains noirs. Le fait d'être noir, déjà, on devient un cible en République dominicaine.
Suite aux incidents de Pedernales, des concertations ont été initiées entre les autorités des deux pays. Mais pour l'heure, aucune mesure concrète n'a été prise pour apporter une solution durable à ce racisme. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec vous, on revient sur ces incidents et dans la presse haïtienne, on souligne qu'il faut d'abord se pencher sur ce qu'offrent en échange les autorités pour éviter cette fuite des Haïtiens vers la République dominicaine et la réponse est pas grand-chose.
Oui, exactement. C'est l'éditorial du journal national intitulé Boomerang. Selon le quotidien, l'opinion publique haïtienne refuse de démasquer les véritables responsables de cette situation afin de prendre collectivement les décisions qui s'imposent. Il semble plus facile, poursuit le National, de dénoncer les pratiques des étrangers plutôt que de se rendre compte de notre état délétère. Car si les Haïtiens fuient leur pays, c'est qu'ils n'ont rien à offrir et fuient aussi parce que, comme dans un jeu de boomerang, la faiblesse de leur instruction, pour ne pas dire l'absence d'instruction tout court, la misère ne leur permet pas de prendre une décision au moment crucial du vote pour placer à la tête de l'appareil d'État une équipe capable de s'atteler à changer les conditions de vie de la population. Et ceux qui partent, écrit le National, traînent avec eux l'absurde négation de l'humain que leur a inculqué notre système politique.
Merci Arim Lipold, on vous retrouve tout à l'heure. On va poursuivre sur cette actualité en Haïti et cette relation difficile avec le voisin dominicain. Bonjour Franz Duval.
Bonjour.
Journaliste au quotidien Le Novelliste, la crainte de nouvelles dérives militaires en Haïti avec le rétablissement des forces armées haïtiennes dans le haut état-major des forces armées avec 6 anciens officiers des FADH dont certains ont été jugés et sanctionnés, France.
L'état-major est constitué d'anciens hauts responsables de l'armée qui étaient en poste, certains déjà à l'état-major, lors du démantèlement de l'armée d'Haïti en 1995. Certains d'entre eux ont été jugés et condamnés pour contumace pour leur implication présumée dans un massacre pendant la période du coup d'état militaire entre 1991 et 1994. Enfin, tous ont été l'objet de sanctions financières de la part des États-Unis d'Amérique. Le justificatif de ces sanctions américaines avait indiqué que ces personnes ont perpétué ou contribué à perpétuer des actes de violence en Haïti.
Le sénateur Youri Latortue, ancien président du Sénat haïtien, est lui aussi monté au créneau après ses nominations.
Si on veut remobiliser l'armée, il faut le faire correctement, a estimé le sénateur Yuri La Tortue, lui-même ex-officier de FADH, les Forces armées d'Haïti. Celui qui est devenu sénateur de la République dénonce le choix des membres du haut état-major, issus majoritairement d'une même promotion.
France, il y a tout de même des personnes qui saluent le rétablissement des forces armées haïtiennes car il était attendu et annoncé depuis 2012.
La question est sur le tapis depuis ce temps-là. On a traîné et finalement ça a eu lieu en 2018, mieux vaut tard que jamais, a confié au journal le docteur Georges Michel, historien et membre d'une commission qui a travaillé sur le retour de l'armée. Le gouvernement haïtien, lui, il joue le temps. Même les CV des membres du nouvel haut état-major n'ont pas été rendus publics. C'est la politique du fait accompli.
France Duval, dans votre journal, vous remettez également en cause le rôle futur de cette armée et son utilité.
Pour l'éditorial du Novelliste de ce jeudi, à quoi bon faire une armée de 2000 hommes si nos voisins de la République dominicaine disposent de plus de 70 000 hommes? Le Novelliste souligne aussi que pour faire des routes, prodiguer des soins de santé ou surveiller les frontières, il y a des institutions qui le font déjà en Haïti. En attendant, l'armée a délogé le ministère de la Culture qui occupait depuis des années l'ancien local de l'état-major. Elle vient de remporter une première victoire et c'est tout un symbole.
Merci Franz Duval, journaliste au quotidien Le Novelliste. La suite de votre revue de presse à Rimlipol, dont prend la direction du Brésil à présent avec l'assassinat d'une conseillère municipale de Rio de Janeiro qui provoque une grande émotion dans le pays.
Oui, Marielle Franco, 38 ans, membre du parti Socialisme et Liberté, le PSOL, a été tuée par balle dans le centre de Rio. Ça s'est passé hier soir. Elle se trouvait dans une voiture de retour d'un rassemblement pour la promotion des femmes noires. Le chauffeur du véhicule a lui aussi été abattu. Selon la police, cité par le journal Le Globo, les assassins savaient exactement où étaient assises leurs victimes, à savoir à droite sur la banquette arrière de la voiture. Les 5 tirs mortels sont partis d'une autre voiture. Les collègues de Marielle Franco au PSOL sont sous le choc. Sur le site du journal Ouest, le député Marcelo Freijo parle d'une exécution. D'après lui, Marielle Franco n'avait reçu aucune menace. C'est un crime contre la démocratie, affirme le parlementaire.
Tous les journaux évoquent le parcours exemplaire de cette militante pour la cause des femmes et notamment des femmes noires.
Oui, Folha de São Paulo rappelle qu'il y a quelques jours encore, elle critiquait vivement l'intervention de l'armée dans les favelas de Rio. Après la mort d'un jeune habitant d'une favela tué par la police militaire, elle avait tweeté « Combien de gens doivent encore mourir pour que cesse cette guerre ?» Un tweet repris aujourd'hui dans toute la presse brésilienne. Le Parlement de Rio organise ce matin une cérémonie en hommage à la conseillère municipale. Plusieurs manifestations sont également prévues à Rio, mais aussi dans d'autres villes au Brésil.
À Rimlipol, les élections présidentielles au Venezuela à présent sans la présence d'observateurs onusiens.
C'est ce qu'a décidé l'organisation internationale hier en précisant n'avoir pas de mandat pour envoyer des observateurs et c'est à la une du journal El Nacional.
À lire aussi dans la presse latino-américaine le profil de la nouvelle génération de trafiquants de drogue en Colombie.
Oui, fini les villas luxueuses, les montres en or ou les bains de champagne. Selon El Colombiano, les nouveaux patrons de la drogue se montrent plus discrets, moins violents aussi. Ils se sont débarrassés de l'héritage de Pablo Escobar. Leurs armes ne sont pas des pistolets 9 mm, mais des téléphones mobiles cryptés. Ce sont des hommes d'affaires qui connaissent très très bien les rouages de la finance internationale. Une étude de l'Observatoire colombien du crime organisé publiée par El Colombiano les appelle d'ailleurs les invisibles.
La presse américaine à présent avec cette élection législative partielle en Pennsylvanie remportée par les démocrates.
Le résultat est très très serré. Conor Lamb, le candidat démocrate, a remporté le scrutin effectivement avec 627 voix d'avance sur son rival républicain Rick Saccone. Une victoire extraordinaire, écrit le New York Times. En 2016, rappelle le journal, cette région industrielle avait massivement voté pour Donald Trump. Selon le journal, ce succès inattendu montre aux démocrates le chemin à suivre pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. Conor Lamb a basé sa campagne sur les thèmes traditionnels du Parti démocrate, à savoir les droits des travailleurs et la redistribution sociale. Il s'est présenté comme un homme politique bien ancré dans sa région en prenant ses distances avec les dirigeants du parti à Washington.
Et pour terminer, Arim, une décision qui suscitera sans doute des polémiques. L'Oklahoma Roma va exécuter ses condamnés par inhalation forcée d'azote.
Oui, l'annonce a été faite par Mike Hunter, le procureur général de cet État du Sud conservateur. Comme d'autres États qui pratiquent la peine de mort, l'Oklahoma a du mal à trouver des substances pour des injections létales. Le site d'information Oklahoma Watch prédit une levée de boucliers de la part des organisations des droits de l'homme et des dépôts de recours devant la justice. Cette méthode jamais utilisée, l'inhalation d'azote peut-elle fonctionner? Sera-t-elle vraiment appliquée un jour? Rien n'est moins sûr, écrit l'Oklahoma Watch.
Merci beaucoup, Arim Lipold. C'était l'un des cartels les plus violents de l'histoire du narcotrafic, les Zetas, un gang formé d'ex-déserteurs de l'armée mexicaine au début des années 2000, ont perdu leur chef, José María Guízar Valencia, alias Z-43, El Charlie, a été arrêté le 9 février dernier. C'est le dernier épisode d'une longue série d'arrestations visant les barons de la drogue mexicains. Mais malgré les nombreux coups de filet opérés par les autorités, les cartels continuent de semer la terreur dans un pays gangréné par le trafic et la corruption. La bataille contre le crime organisé, une guerre perdue d'avance, un dossier signé Fausto Muñz.
Les États-Unis avaient placé 5 millions de dollars sur sa tête. José Guízar Valencia, numéro 1 du cartel des Zetas, est désormais détenu par les autorités mexicaines. Il a été arrêté le 9 février dernier dans le quartier de la Roma, en plein cœur de la capitale. Le commissaire national Renato Sales, quelques heures après la capture.
Il est considéré comme présumé responsable du transport de drogue depuis l'Amérique du Sud vers les États-Unis et comme un des principaux responsables de la violence dans le sud-est du pays. José María était également recherché pour crimes contre la santé publique, trafic d'armes, délinquance organisée, homicide et séquestration, tant au Mexique qu'aux États-Unis.
Des coups de filet comme celui-ci, les Mexicains commencent à y être habitués. Sur les 5 dernières années, 109 hauts responsables du crime organisé ont été arrêtés ou abattus. 33 rien que pour les États, qui sont devenus l'une des cibles numéro 1 sous la présidence d'Enrique Peña Nieto. Pas nécessairement en raison du trafic de drogue, mais surtout pour les violences extrêmes qu'ils ont perpétrées. Alejandro Hope, consultant spécialiste des questions de sécurité.
Leur modèle d'expansion, c'était la brutalité. Ils arrivaient dans une localité et ils exerçaient la violence de manière extrême. Mutilations, tortures, massacres. Ils sont responsables de quelques-unes des pires exactions commises dans le pays sur les 10 dernières années. Les deux massacres de San Fernando, par exemple, le massacre de Allende à Caulia, la brutalité extrême de ce cartel a obligé le gouvernement à en faire un de ses objectifs prioritaires.
Une réponse nécessaire pour maintenir l'autorité de l'État, mais qui n'a mis fin ni au trafic ni à l'insécurité. Diego Osorno, journaliste spécialisé dans le narcotrafic et auteur du livre La guerre des Zetas.
Aujourd'hui, la violence continue de sévir dans le nord-est du pays, et surtout à la frontière entre Tamaulipas et le Texas. C'est une violence qui n'est toujours pas contrôlée. Presque chaque semaine, on apprend qu'il y a de nouveaux couvre-feux, des affrontements, des fusillades.
Mais comment s'attaquer aux groupes criminels quand les plus hauts représentants politiques sont mêlés à ces réseaux? Les grands discours annonçant la guerre aux narcotrafiquants, la médiatisation des arrestations, pour Diego Osorno, cela relève plus de la démagogie que d'une réelle volonté de lutter contre les mafias. L'année dernière encore, une étude de l'Université du Texas basée sur les déclarations de narcotrafiquants emprisonnés montrait que les frères Moreira, gouverneurs de l'État de Coahuila, recevaient des millions de dollars des États en échange du contrôle de la région. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé.
L'État mexicain est un État faible. C'est un État qui est pénétré par les réseaux criminels de la base jusqu'au sommet. Ce n'est pas une croyance, c'est quelque chose que j'ai pu documenter avec des témoignages après de nombreuses années d'enquête. J'ai par exemple parlé à Miguel Félix Gallardo, l'un des chefs du cartel de Sinaloa, qui m'a parlé de ses liens avec les plus hautes sphères de l'État. Je crois que c'est le point d'origine de cette violence. Aujourd'hui, même s'il y a eu des initiatives, même s'il y a eu du mouvement sur la scène politique, la corruption est tellement grande qu'il est impossible de résoudre ces problèmes.
En cette année présidentielle, plusieurs candidats ont déjà promis de faire la guerre aux narcotrafiquants. De belles paroles dans un pays toujours gangréné par la violence des cartels. L'année dernière, un triste record a été battu puisque plus de 25 000 homicides ont été recensés dans le pays.
Un dossier signé Fausto Muñz. Il est 9h25 à Fort-de-France, l'heure de retrouver nos collègues du journal La Première Caraïbe. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Et à la une aujourd'hui, un élu martiniquais qui part en guerre contre le projet de production d'électricité à partir de l'énergie thermique des mers.
Ce projet, c'est Nemo, une centrale flottante installée au large de la commune de Bellefontaine, sur la côte caraïbe de la Martinique, la côte ouest. Nemo devrait être le premier projet de production d'énergie thermique des mers à entrer en service, devrait, car Ralph Monplaisir, c'est son nom, maire de la commune de Cazepilote, va partir en guerre. Ce projet, il n'en veut à aucun prix. Maurice Violeton.
Ralph Monplaisir mobilisait la population et les élus du Nord Caraïbe dans sa commune de Cazepilote. Son objectif, faire capoter ce projet, car selon lui, il présenterait un véritable danger pour la faune, pour la flore, pour les Martiniquais. L'ammoniac, plus de 250 tonnes nécessaires au projet, est très toxique. Alors, que faire en cas de fuite? Deuxième argumentation, ce projet sera classé site ultra sensible. Conséquence.
Benoît Ferrand, vous êtes toujours là? Nous avons perdu Benoît Ferrand. On reviendra peut-être dans un petit instant avec le journal La Première. Mais tout de suite, un mot de musique avec l'album Familia, tribute to Bebo et Chico, une réunion de fils qui célèbrent leur père dans le jazz afro-latin. Voici Chico Valdés, Arturo Farri, les Afro-Latin Jazz Orchestra et le single Equation. Votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. N'oubliez pas le podcast sur notre site internet www.rfi.fr, page Journal des Amériques. Très bonne journée à tous et à demain.
L'Institut français vous invite à participer à une vaste consultation citoyenne pour exprimer vos propositions en faveur du français et du plurilinguisme dans le monde. Vous avez jusqu'au 20 mars pour déposer votre idée en ligne sur le site monidéepourlefrançais.fr. En partenariat avec France Média Monde. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Pays d'Europe le plus endetté, l'Italie est aussi celui avec le plus de pauvres. Après des années de politique d'austérité, aujourd'hui la reprise économique est là. Question, sera-t-elle suffisante pour financer les promesses des partis populistes, vainqueurs des élections du 4 mars dernier ?
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Samedi, à partir de 11h10 TU.
RFI.